Chapitre 5. Le physicien vit entrer dans la salle d'attente Cornelius Hornsby avec sa femme et sa fille, et résista au désir violent qu'il avait de saluer Alice. Mais la prudence l'emporta. Il se tourna du côté du mur et lut avec intérêt le catalogue de la bibliothèque des chemins de fer. Cependant, il regardait la jeune Anglaise du coin de l'œil, et il eut le plaisir de voir qu'il en était fort regardé. Dès qu'on ouvrit la double porte de la salle d'attente, Cornelius s'avança le premier vers un wagon vide et tout d'abord s'installa confortablement dans un coin. En face de lui était sa femme, et à côté de lui, sa fille. Une quatrième place restait vide, réservée à Hercule. Quatterkem avança d'un air insouciant la tête dans l'intérieur du wagon. « Entrez vite, monsieur !» dit un employé en le poussant. « Le convoi va partir !»« La place est gardée pour un ami !» s'écria Cornelius Hornsby. « Votre ami entrera dans un autre wagon, » dit l'employé qui crut que l'Anglais usait de ruse pour ménager de la place à son manteau. « Et vous, monsieur, dépêchons !» Quatterkem se hâta d'entrer, et l'employé ferma la portière. « Excusez-moi, » dit gracieusement notre ami en prenant la place d'Hercule, « si je vous cause quelques gênes, tous les autres wagons sont remplis. L'administration du chemin de fer est d'une négligence impardonnable. » Cornelius Hornsby grommela quelques mots que Quatterkem feignit de prendre pour un assentiment poli. Pendant ce temps, Madame Hornsby le regardait avec attention, et Alice, les yeux baissés, lisait avec recueillement un livre ouvert sur ses genoux. Tout à coup, notre ami parut les reconnaître. « Par quelle heureuse rencontre est-ce que je vous trouve ici, madame » dit-il à Madame Hornsby. « Je ne m'attendais guère au plaisir de vous revoir si tôt. » À ces mots, Alice leva les yeux et sourit. Quatterkem vit qu'on l'avait deviné, et que sa hardiesse ne déplaisait pas. Il en conçut un heureux augure. « Nous allons entre Tours et Poitiers chercher le cimetière d'Abderham, » dit Mistress Kate Hornsby, qui, n'ayant pas grand crédit dans la maison, n'était pas fâchée de s'amuser aux dépens de son seigneur et maître Cornelius. Le Breton remarqua cette nuance, mais il ne voulut pas fournir des armes à l'un des deux époux contre l'autre. C'était un jeu trop dangereux. « L'archéologie, » dit-il d'un ton sérieux, « est une science admirable, et j'ai regret de dire qu'elle doit ses plus grands progrès au génie de votre nation. » Le front de Cornelius se dérida. « Bon, je le tiens, » pensa Quatterkem. « À qui devons-nous » continua-t-il avec enthousiasme. « Les statues de Rome, les bas-reliefs du Parthénon d'Athènes et tous ces débris des plus beaux monuments de l'Antiquité. À qui, si ce n'est à des mains anglaises, remplies d'argent anglais ?» et dirigé par le génie anglais. » Le plus gracieux des sourires errait sur les lèvres de Cornelius. « Eh bien, monsieur, » dit-il en interrompant Quatterkem, « on nous dispute cette gloire. Je connais un Normand qui se vante d'avoir moulé toutes les inscriptions de Khorsabad. Et il y en a 30 000, monsieur, 30 000. C'est dire de quoi couvrir tout le British Museum de la tête aux pieds. Vous ne sauriez croire jusqu'où va la présomption de ces gens-là. « Avez-vous visité Ninive ?» dit Quatterkem. « On dit que M. Place, le consul de France, n'a laissé rien à faire à ses successeurs. »« Rien à faire ?» dit Cornelius indigné. « Monsieur, tout est à faire. Oui, j'ai vu Ninive, ses palais, ses temples en briques qui couvrent de leurs débris 3 ou 4 lieues carrées de terrain. J'ai fait mieux, monsieur, j'ai vu Ecbatane, la ville du fameux Déjoc, la ville aux 7 enceintes, derrière lesquelles se trouvait le palais du roi. » « Ecbatane !» dit Quatterkem, frappé d'admiration. « Est-ce possible ?»« Tout est possible à un Anglais !» dit Cornelius en se rengorgeant avec fierté. « En 1857, j'étais à Kiva, et je dînais chez le Khan des Tartares avec le prince Barovski, gouverneur d'Archangel. Tout à coup, j'aperçois parmi les esclaves qui nous servaient un grand diable au visage basané que je crois reconnaître. Je lui fais signe de s'approcher, je lui dis... « Bourdaké Farana ? » C'est-à-dire, « N'es-tu pas un ancien serviteur anglais ?» Il me répond « Crac !» C'est-à-dire, « Je suis Franck. » Vous pensez bien que nous parlions le turcoman le plus pur. « Burnes Perode Barnaya » continua-t-il. C'est-à-dire, « J'ai servi le colonel Burnes qui fut massacré dans ce chien de pays par le tartare chez qui vous dînez aujourd'hui, et je suis un esclave de ce féroce gredin. » Il faut vous dire que le turcoman est la langue la plus énergique et la plus concise de l'univers. « Je le vois bien, » répliqua Quatterkem. « Continuez ce récit, je vous en prie, je suis curieux d'en connaître la suite. » La confidence de ce pauvre diable, car il m'avait parlé tout bas, me coupa l'appétit. Je replaçai sur mon assiette un morceau de cheval rôti qui était la meilleure partie du festin, et je rêvais au moyen de lui rendre à la liberté. Justement, le khan qui était en face de moi remarqua que je ne mangeais plus. Or, chez ces braves gens, c'est un outrage impardonnable de laisser le maître de la maison boire et s'enivrer seul. « Vous ne buvez pas ?» dit-il. « Est-ce que vous n'aimez pas le lait de jument ?» Je m'en défendis fort, et vidai à la santé du khan et des sultanes 4 ou 5 cornes de taureau. Après le dîner, le khan, déjà tout attendri par le lait de jument et par l'eau de vie que Barovski avait apporté en présent, donna la liberté à mon protégé, et je partis sur le champ pour ne pas lui laisser le temps de se repentir de sa générosité. « Comment s'appelait l'esclave ?» demanda Quaterken. « Mahamoud. C'était un lascar, né d'une indienne et d'un anglais. Il avait, sous la direction de Burness, visité toute l'Asie centrale, le Khorassan, le Mazandéran et les bords de la mer Caspienne. Il me fit voir Ecbatane. Moi, seul, en Europe, monsieur, ai vu les ruines de cette superbe ville, en comparaison de qui Londres même n'est qu'une vaste fourmilière. J'ai retrouvé le titre préliminaire du code du fameux roi Djemshid, cet abrégé de toute sagesse. « Et vous n'avez rien publié ?»« À quoi bon ? Aurais-je dépensé 200 000 francs, exposé ma vie, passé les mers, traversé les plus hautes montagnes du globe, erré dans le désert de Gobi et dans cette vaste solitude de l'ancienne Hari ? Aurais-je bravé les sables des Tartares, la soif, la faim, la fatigue et le soleil brûlant pour donner à des millions d'oisifs le plaisir d'être, moyennant 3 francs et la lecture de mon livre, aussi savant que moi ? Non, non, s'ils veulent connaître Ecbatane, qu'ils partent, qu'ils dépensent leur argent et leur santé, alors ils recevront le prix de leur fatigue. Parbleu, dit Quaterken, je vous admire. Vous êtes bien bon. Je me soucie non pas d'être admiré, mais d'agir à ma fantaisie. Et ma fantaisie est de retrouver les monuments de l'antique histoire. Feu Napoléon nous appelait les boutiquiers, pour moi ce nom est un titre de gloire. Je veux prouver qu'avec mon argent je puis avoir de tout. Même du goût pour les arts, si cela me plaît. Le boutiquier, dans sa boutique, est roi, et tous les jours, il reçoit à son comptoir les hommages des artistes et les faiseurs de livres. Il remue l'or dans ses tiroirs, et à ce bruit, tous s'inclinent. S'il le voulait, il serait Dieu. La conversation continua quelque temps sur ce ton. Quaterken eut grand soin de ne contredire que faiblement Cornelius, de manière à lui laisser le plaisir de pérorer et de vaincre. Il eut le plaisir de voir que la belle Alice comprenait cette tactique et lui en savait gré. La digne Kate, ennuyée d'Ecbatane et d'une discussion trop détaillée sur les divers genres de cruches de l'Antiquité, s'endormit du sommeil des justes. Sur ces entrefaits, on arrivait à Étampes, et le train s'arrêta pendant quelques minutes. La jeune Anglaise voulut descendre de wagon et marcher. Cornelius et sa femme restèrent assis, et Quaterken suivit Alice. Son cœur battait violemment. C'était l'heure décisive. « Miss Hornsby, dit-il. « Vous savez mon nom ? » s'écria-t-elle étonnée. « Oh, je sais beaucoup d'autres choses. Je sais que vous êtes fiancée à M. Hercule Harrison, le gentleman aux favoris roux qui vous donnait le bras avant-hier. C'est de lui qu'il faut que je vous parle. Lui serait-il arrivé quelque accident ? Oh, peu de choses. Il a manqué le convoi, mais vous le reverrez demain. Il s'est pris de querelle avec 17 de mes meilleurs amis, et on l'a conduit au poste. » « Avec 17 de vos meilleurs amis ?»« La cloche va sonner, dit Quaterken, et je n'ai pas le temps de vous expliquer ce mystère. Sachez seulement que c'est par mes ordres qu'on l'a retenu à Paris. »« Mais monsieur, quelle est cette folie ? Que vous a fait Hercule ?»« Il vous aime. » La jeune Anglaise rougit, abaissa son voile sur sa figure, et remonta en wagon sans dire un mot. Quaterken la suivit, un peu inquiet du succès et de son audace. Sans être tout à fait inexpérimenté en amour, ce n'était pas non plus un don Juan, et il était déjà trop amoureux pour ne pas craindre. Heureusement, le premier regard qu'il jeta sur sa compagne de voyage lui fit voir qu'elle ne gardait aucun ressentiment d'une déclaration si hardie et si brusque. « As-tu vu Hercule dans le convoi ?» demanda Cornelius à sa fille. « Non, mon père. » Et elle sourit en regardant Quaterken. « Bon, pensa celui-ci, elle n'aime pas le sieur Harrison. Tout va bien, j'ai gagné la moitié de mon procès. » Pendant ce temps, le vieil Hansby, charmé de trouver un auditeur si complaisant, avait formé le projet, rare et extraordinaire pour un Anglais, de faire plus ample connaissance avec Quaterkem, et prit un détour adroit. « Monsieur, dit-il, je vois bien à vos discours que vous êtes un archéologue très distingué. Avez-vous voyagé en Orient ?»«
Non, dit le Breton, mais je suis allé plusieurs fois de Saint-Malo à Paris et de Paris à Saint-Malo. Cela suffit à mon bonheur. »
« Vous devez être tout au moins un des membres de l'Institut, ou l'un des correspondants. »«
Je n'en suis même pas le portier, » dit Quaterkem. « Je suis un pur X, et j'ai dans mon portefeuille un millier de francs qui forment le plus clair de mon bien. »
Tout en parlant, il examinait la physionomie de la jeune Anglaise pour savoir si cette nouvelle ne l'abaisserait pas dans son esprit. Mais Alice, bien qu'étonnée d'une confidence si inattendue, ne parut pas s'en émouvoir beaucoup. Monsieur Hornsby ne fut pas aussi satisfait. Et son visage témoigna clairement qu'il avait cru parler à un gentleman plus respectable, c'est-à-dire plus riche. Alice devina au fier regard de Quaterkem qu'il méprisait Cornelius. Elle se hâta d'intervenir.
« Monsieur, dit-elle, qu'est-ce qu'un X, s'il vous plaît ?»«
Ouvre ton dictionnaire de poche, répliqua Cornelius. » Quaterkem sourit.
« Miss Hornsby, dit-il, ne trouvera pas ce renseignement dans son livre. » On ne trouve dans les dictionnaires que ce qu'on n'a pas besoin d'y chercher. Un X, mademoiselle, est un homme ennuyeux, comme tous les hommes utiles, et qui fait toutes les besognes difficiles de la création. Un géomètre est un X, un physicien est un X, un chimiste est un X, un naturaliste, un algébriste, voilà des X. C'est un X qui inventa les bateaux à vapeur, c'est un autre X qui inventa les chemins de fer, c'est un troisième X qui inventa l'imprimerie. Partout où il s'est fait quelque chose de grand et d'utile, vous trouverez un X. Hiram, le fameux architecte qui bâtit le temple de Salomon, était un X. Comme Albert le Grand, qui trouva le secret de transmuer en or un rayon de soleil enfermé dans un tombeau.
« Avez-vous longtemps vécu à Saint-Malo ? » demanda Miss Hornsby.
« Jusqu'à l'âge de 15 ans. Et depuis 10 ans, je suis à Paris. Le nom de Quaterkem est bien connu à Saint-Malo. »«
Quaterkem ! » s'écria Cornelius étonné.
« Quel singulier nom ! » !»«
C'est un des plus nobles de France, » répliqua le Breton. « Bien que mon père, qui ne savait pas lire, ait été matelot toute sa vie, notre noblesse date du feu roi Saint-Louis. Pendant la croisade d'Égypte, mon grand-père, qui était un brave paysan breton, assomma dans une seule bataille 30 ou 40 douzaines de sarrasins. 4 fois, les Mamelucs le criblèrent de coups de sabre et le foulèrent sous les pieds des chevaux. 4 fois, il se releva et se remit à les assommer de plus belle sous les yeux du roi émerveillé. Saint-Louis, qui était savant comme un clerc, se tourna vers son chapelain et lui dit en bon latin « Ist Quaterkem vidimus oxisum fortior renascitur ». Le chapelain répéta les paroles du roi, et toute l'armée appela mon grand-père Quaterkem. Le roi le créa baron, et lui fit présent d'une belle baronnie, qui se fondit il y a plus d'un siècle entre les mains des usuriers. Pendant ce temps-là, mon grand-père et mon père ont pêché la morue à Terre-Neuve, ce qui n'est pas dérogé, et passé leur vie sur l'océan. Et moi, pour ne pas être indigne d'eux, je cherche un moyen de naviguer dans l'air.
« Comment ? » s'écria M. Hornsby. « C'est de vous que ma fille m'a parlé toute la journée d'hier ?»«
Oh, quelque peu moins, mon père, » dit Alice en rougissant.
Quaterkem était le plus heureux des hommes. Elle avait parlé de lui toute la journée, donc elle avait pensé à lui, donc elle l'aimait ou elle l'aimerait un jour. Donc, son imagination présomptueuse ne s'arrêtait plus dans la série de ses « donc ».«
Oui, » dit-il, « j'ai trouvé le moyen de diriger les ballons. » »«
Un moyen sûr ?»
« Parfaitement sûr. J'en ai fait l'expérience avant-hier. »«
Monsieur, dit l'Anglais, si votre secret est éprouvé, s'il est infaillible, je vous l'achète 1 million. »«
Pour l'exploiter ?»«
Oui, et pour y mettre mon nom. Je ne veux pas qu'il soit dit qu'une pareille découverte n'a pas été faite par un Anglais. » Quaterkem se mit à rire.
« 1 milliard ne paierait pas ce secret, répliqua-t-il. » En 10 ans, le genre humain fera la besogne de 20 siècles. L'Angleterre, dont toute la force est dans ses vaisseaux, ses mines de fer et ses mines de houille, ne sera plus qu'un petit coin de la terre habitable. Ses ports seront déserts, ses chantiers déserts, ses ateliers déserts. Les corbeaux viendront croasser dans la chambre des lords et les pies babiller dans la chambre des communes.
Un regard de Miss Hornsby l'arrêta à temps.
il sentit qu'il se fourvoyait. Cornelius était indigné de son audace, mais il désirait le confondre, et il continua la conversation. Quaterkem sut regagner ses bonnes grâces et parla d'archéologie tant que l'anglais le voulut. Cependant, on approchait d'Orléans. Kate ouvrit les yeux et la bouche. « À quel hôtel descendons-nous » dit-elle. M. Hornsby ouvrit le guide Bradshaw. « À l'hôtel du Loiret, » dit-il. « C'est celui que préfère sa grâce, le duc de Bedford, et Hercule sait que nous devons nous y arrêter. »«
Parbleu !» dit Quaterkem. « La rencontre est heureuse. J'avais justement dessein de faire halte à Orléans. Je vous montrerai, si vous voulez, les antiquités du voisinage. »
« J'en suis ravi, » répliqua Cornelius, qui faisait grand cas du Breton depuis qu'il le voyait propriétaire d'un secret si précieux. Miss Hornsby ne dit mot, mais Quaterkem vit bien qu'il faisait du chemin dans le cœur de la jeune Anglaise. La digne Kate, muette comme un poisson, n'était occupée que de l'espérance de bien dîner. Cette espérance ne fut pas trompée, et les deux bouteilles d'excellent vin portèrent au comble la joie de M. Hornsby.
« Ma foi !» dit-il en mettant les coudes sur la table. « Vous êtes un bon compagnon, cher monsieur Quaterkem, et je suis enchanté de vous voir. J'avais pour vous, sans vous connaître, une antipathie extrême, et je suis bien aise de voir que je m'étais trompé. »«
Vraiment, vous me haïssiez ?» dit Quaterkem. « Et pour quelle raison, s'il vous plaît ?»«
Parce que sans votre père, je serais à la chambre des lords. »«
Eh ? Et dans quel pays l'avez-vous connu, s'il vous plaît ?»«
Je ne l'ai jamais vu, même en peinture, mais écoutez mon histoire. » En 1806, mon père, Lucius Hornsby, était l'ami intime et le bras droit de Nelson. Il commandait sous lui l'un des vaisseaux de l'escadre et avait promesse de Napoléon qu'il serait fait vice-amiral à la première vacance. Par malheur, votre père a tué Nelson et déchiré le brevet promis à Lucius. Les lords de l'amirauté le mirent à la retraite au lieu de lui donner le commandement d'une escadre. Mon père, furieux, se maria au Northumberland et ne voulut plus entendre parler de prairies. Et moi, qui devais être lord et secrétaire d'État, je suis à peine 5 ou 6 fois millionnaire.
Il est vrai, dit Quaterkem, que c'est un sort déplorable, et que vous avez raison d'accuser le destin. Pour moi, je n'essaierai pas de justifier mon père. Il est inexcusable d'avoir tué Nelson et gêné l'avancement de M. Lucius Hornsby. Cependant, réfléchissez que nous sommes tous mortels, et que Nelson, s'il eût échappé à mon père, aurait sans doute péri d'une autre main.
« Je le sais bien !» s'écria M. Hornsby. « Et c'est ce qui m'indigne contre toute votre nation. Aussi j'ai juré que ma fille, quoi qu'il pût arriver, n'épouserait jamais un Français. »«
C'est fort sagement pensé, » dit Quaterkem, « et je vous approuve, surtout si vous avez un bon gendre anglais tout préparé. »«
J'ai mon ami Hercule qui serait la perle des gendres s'il ne bâillait pas si fort quand je parle d'archéologie. »«
Parlez-vous de M. Harrison ?»«
Oui, est-ce que vous le connaissez ?»«
Je le crois !» N'est-ce pas un grand jeune homme roux qui se débattait de toutes ses forces sous le vestibule quand le convoi est parti? Entre nous, et sauf l'honneur qu'il a d'être fiancé de Miss Hornsby, je crois qu'il était entre deux vins.
Entre deux vins? C'est impossible, monsieur. Hercule ne boit que du porto. Vous vous trompez. À coup sûr.
Admettons, si vous voulez, qu'il ne boive que du porto. À coup sûr. Il a le porto très dangereux. Je l'ai vu chercher querelle à 15 ou 20 personnes qui s'efforçaient vainement de le calmer.
En effet, dit Cornelius, son absence est fort singulière. Il faut qu'il lui soit arrivé quelque accident. Au reste, je suis tranquille. Il nous aura bientôt rejoints.
Qu'allons-nous faire ici en l'attendant? Demanda Alice.
Si nous commencions une partie de whist, dit la paisible Kate.
Quaterkem frémit. Parmi plusieurs belles qualités, ce pauvre garçon avait le terrible défaut de ne pas savoir s'ennuyer. Or, le whist est, comme on le sait, la plus brillante incarnation de l'ennui. Je n'en dis rien de plus pour ne pas contrarier plusieurs de mes amis qui n'ont pas su s'en garantir, mais je tiens tout joueur de whist pour un mauvais cœur et un égoïste féroce. Heureusement, Cornelius Hornsby, aussi effrayé que son nouvel ami de la pensée du whist, se hâta de prendre son chapeau.
« Il fait beau temps, » dit-il. « Allons voir les environs. Venez-vous avec nous, monsieur ?»
Quaterkem ne se le fit pas répéter et offrit son bras à la belle Alice. On prit le chemin d'Olivet. À peine était-on arrivé au pont d'Orléans lorsque le garçon d'hôtel accourut sur les pas de M. Hornsby et lui remit une dépêche télégraphique.
Paris, 17 avril 1859, 11h du matin. Mon cher Hornsby, une sotte querelle que je viens d'avoir avec je ne sais qui m'a fait retenir sous les verrous pendant une heure et m'a fait manquer le convoi. Maintenant, je suis libre et je vais attenter un procès au sergent de ville pour arrestation illégale. Je veux apprendre à ces Français qu'on ne met pas impunément la main sur un citoyen anglais. Tout à vous et à ma chère Alice. Hercule Harrison. P.S. Ce procès m'oblige de rester à Paris jusqu'à demain. Quaterkem eut beaucoup de peine à ne pas éclater de rire en voyant l'heureux effet de ses intrigues. Quant à Miss Hornsby, elle se moqua franchement de son fiancé. « Hercule, dit-elle, n'est guère pressé de nous rejoindre. » « Il a raison, ma chère, répondit M. Hornsby. Il ne faut pas qu'un pareil attentat contre les droits et la liberté d'un citoyen anglais demeure impuni. » L'incident n'eut pas de suite. Le Breton, ravi de son bonheur et voyant qu'il n'avait pas de temps à perdre, résolut d'aller droit au fait. Il pressa le pas et, laissant M. Hornsby et Kate à quelque distance, il put enfin causer librement avec sa maîtresse. « Est-ce que tous les amants anglais sont faits sur ce modèle ?» dit-il en riant. « À peu près, répondit Alice. Ces messieurs sont si parfaitement maîtres de leur passion qu'on ne les voit jamais quitter un rendez-vous d'affaires pour un rendez-vous d'amour. Harrison ne pense à rien aujourd'hui, si ce n'est à se venger du sergent de ville qui lui a mis la main au collet. Il mènera ce sergent de ville devant tous les tribunaux de France jusqu'à ce qu'il l'ait fait condamner à la prison et à l'amende.
« Pauvre sergent de ville, dit Quaterkem, il a mis la main sur un vrai porc-épic. Heureusement, il n'a rien à craindre de ses poursuites, M. Harrison en sera pour ses frais.
Mais vous, monsieur, qui vous vantez à moi d'avoir joué ce mauvais tour à mon futur mari, que diriez-vous si je répétais cette confidence à mon père et à ma mère ? Quaterkem vit bien, au ton et à la gaieté de Miss Hornsby, qu'elle n'était pas fâchée de son audace, et il répondit gaiement
« J'avoue, mademoiselle, que mon crime est impardonnable, mais j'espère que vous me ferez grâce en faveur de l'intention. »
« Et quelle est cette belle intention ? » dit-elle d'un ton demi-léger et demi-sérieux.
« Je n'ose ni parler ni me taire. Je crains que ma franchise ne vous déplaise. »
Quelque effort qu'il fît pour paraître calme, son cœur battait si violemment qu'elle s'en aperçut, et qu'elle sentit cette douce émotion de l'amour se communiquer à elle. Cependant, elle voulut soutenir ce ton de plaisanterie.
« Parlez donc, monsieur, suis-je si redoutable ? » ?»« Mille fois plus que vous ne le pensez. »
Vous me faites mourir d'impatience et de curiosité. Quoi que ce soit, monsieur, parlez, je vous pardonne d'avance.
Eh bien, Miss Hornsby, permettez-moi une question.
Interrogez si vous voulez, mais je ne m'engage pas à répondre.
Avez-vous lu des romans ?
Oh, bien peu. 2 ou 3 000, tout au plus.
Ce n'est pas trop.
N'est-ce pas, monsieur ? Hélas, la vie est si courte.
Croyez-vous qu'un homme sincère et passionné puisse aimer une femme tout à coup, en une minute, pour l'avoir rencontrée au bal ou à l'opéra ?
Je ne sais pas, monsieur. Ma cousine Charlotte s'est fait enlever il y a 5 ans par un lieutenant de hussards avec qui elle avait valsé 2 fois la veille.
Et leur amour dure encore ?
Assurément. Est-ce qu'en France on se lasse quelquefois d'aimer ?
Je ne dis pas cela. On peut donc aimer du premier coup et pour toute la vie, c'est vous qui l'avouez.
« Que voulez-vous que je vous dise, monsieur ? Je n'en sais rien. Je n'ai pas l'expérience de ces choses-là. »«
Eh bien, mademoiselle, supposons qu'on vous aime de cette manière et que l'homme qui vous aime soit prêt à donner sa vie pour vous, supposons qu'il n'ait aimé que vous seul et que, malgré des obstacles de toutes sortes qui devraient le décourager, il ose vous le dire. Que répondrez-vous ? » ?»«
Monsieur, dit Alice émue, je n'aime pas à examiner de pures hypothèses. »
Mais enfin, si tout cela était vrai, si la vie, l'avenir et peut-être la gloire de cet homme dépendaient de vous seul.
Vous oubliez, monsieur Harrison ?
Je ne l'oublie pas. C'est lui qui vous oublie pour un procès ridicule.
Il est vrai qu'il aurait mieux fait de nous suivre, mais vous, monsieur, à moins que vous n'ayez pour l'archéologie et les vieilles dagues rouillées autant de passion que mon père, que faites-vous ici ?
Vous ne le devinez pas ?
Non, je vous jure.
« Eh bien, vous le voyez, j'examine avec vous des hypothèses. »«
Et vous dites du mal de mon pauvre Hercule. Que vous a-t-il fait ?»«
Tenez, mademoiselle, dit Quaterkem, parlons sérieusement. »« Je vous aime, et je sens que je vous aimerai toute ma vie. »«
Vous êtes bien prompt.
Vous auriez dû me consulter avant de faire cette folie. Sérieusement, cher monsieur. »
Et tout en parlant, elle s'appuya doucement sur le bras de Quaterkem.
« Vous ne pouvez pas m'aimer. Sans parler de moi-même, que penserait et que ferait mon père qui a donné sa parole à Harrison et qui a pour vous et pour votre nation une antipathie invincible ?»«
Bah, le plaisir de parler archéologie l'emportera sur le désespoir de donner sa fille au meurtrier de Nelson. »
« Et monsieur, pour qu'il me donne à vous, il faut que je me sois donné moi-même, et j'en suis encore fort loin. »«
Vous n'aimez pas Harrison. »«
Qu'en savez-vous? C'est un excellent homme dont je fais tout ce que je veux et qui m'aime à la folie. »«
Le beau mérite de vous aimer et de vous obéir. Le soleil, la lune et les étoiles en feraient bien autant si vous daignez le leur commander. »«
Je n'en doute pas, mais qui leur portera mes ordres?
Et en attendant, n'est-il pas bien commode d'avoir sous la main un bon mari tout prêt ?» Accoutumé à mes caprices, qui connaît mes défauts comme je connais les siens, et qui m'aimera tranquillement et éternellement.
Bien tranquillement, en effet.
Mon Dieu, ce n'est pas l'idéal, je le sais bien, et les héros de Lord Byron sont d'un tout autre style, mais cet honnête Anglais, sans passion, sans faiblesse, sans vice,
et sans vertu.
Ajoutons, si vous voulez, sans vertu, remplira fort bien son rôle de mari à Londres.
Oui, il aura de l'argent, du crédit, de l'importance, de la réputation peut-être, 1000 autres en ont qui ne valent pas mieux que lui. Mais il vous donnera le spleen. Quand vous serez pour lui comme un beau meuble, vous présiderez les fêtes qu'il donnera, s'il en donne. Vous serez envié pour votre beauté, votre grâce irrésistible, votre esprit plein de charme, mais vous sécherez intérieurement d'ennui et de dégoût. Et vous maudirez 1000 fois le jour où vous aurez accepté un mari anglais de la main de votre père.
Peut-être, mais qui me répond que vous m'aimerez davantage, et que cette déclaration si galante et si imprévue n'est pas l'effet d'un rayon de soleil, du printemps qui s'avance, ou du chant des rossignols dans les bois, et que votre amour ne sera pas court et fugitif, comme ce grand réveil de la nature qui l'excite aujourd'hui.
Alice, dit Quaterkem en lui prenant la main avec émotion,
je jure de vous aimer éternellement.
Dès le premier jour que je vous ai vu, mon âme a été à vous tout entière. Je n'ai plus de pensée qui ne soit la vôtre. Vous serez ma femme, ou je mourrai.
Vous oubliez Monsieur Harrison et mon père.
Harrison, je le tuerai. Votre père, je le convertirai, et s'il le faut, je lui céderai mon secret et ma gloire.
Votre gloire? Si vous le faites, je saurai que vous m'aimez. Et ce jour-là...
Achevé. Ce jour-là.
Eh bien, je vous permettrai d'espérer. Quaterkem, ravi de joie, lui baisa la main avec passion. Prenez garde, dit-elle vivement en retirant sa main. Mon père se retourne et va nous voir.
Si quelqu'un trouve que Miss Hornsby est un peu prompte à disposer de son cœur et de sa main... qu'il eût été plus convenable d'attendre le consentement de son père et de sa mère, et qu'une pareille précipitation ne fait pas grand honneur à l'éducation si parfaite que lui avait donnée la digne Kate, je répondrais à ce critique impertinent que Miss Hornsby est anglaise, c'est-à-dire fort libre de ses actions, qu'elle aime Quaterkem, ce qui, après tout, n'est ni improper ni sans exemple dans les annales des nations, qu'elle n'aime pas Harrison, qu'elle a pour ce pauvre homme l'éloignement bien naturel qu'une jeune fille riche, spirituelle, jolie et volontaire ne peut pas manquer d'avoir pour un automate savant tel que le brave Hercule. J'ajouterai qu'un mari présenté par un père n'a pas, à beaucoup près, la même saveur et le même attrait qu'un mari qui se présente tout seul et qu'il faut faire entrer par la porte dérobée. Enfin, je conviendrai, si vous voulez, que mon héroïne n'est pas parfaite et qu'elle ferait bien mieux de lire la Bible ou d'écouter les pieux discours du révérend Spurgeon que d'accueillir si favorablement les discours d'un garçon fort sincère, fort amoureux, fort honnête homme, et en même temps fort étourdi, tel que notre ami Quaterkem. Au reste, quelque jugement qu'on en puisse porter, le fait est certain, l'histoire est authentique. Ce n'est donc pas à moi qu'il faut reprocher la conduite un peu légère de l'aimable Miss Alice Hornsby, fille unique du docteur Cornelius.